C'est bien Marc au chapitre 4. Et au début du chapitre, il y a une parabole célèbre qui est la parabole du semeur. Et on va commencer au verset 3. Voici ce que Jésus dit à aux personnes qui l'écoutent. Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et elle se dessécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. D'autres grains tombèrent dans la bonne terre, montant et croissant, et finirent par donner du fruit. L'un rapporta 30, un autre 60, et un autre 100. Et il disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Jusqu'ici, notre lecture, ou du moins pour l'instant, parce qu'avec une parabole comme ça, il est bon de l'expliquer. Et plutôt que de vous donner mes explications, je vais vous donner les explications du Seigneur. Jésus lui-même, qui un peu plus tard explique cette parabole aux disciples. Et on passe au verset 14 du même chapitre, où Jésus explique. Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée. Mais à peine l'ont-ils entendu que le Satan vient enlever la parole qui a été semée en eux. Quant à ceux qui ont été ensemencés dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils reçoivent la parole, entendent la parole, la reçoivent avec joie aussitôt. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils ne tiennent qu'un temps. Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour eux une occasion de chute. D'autres ont été ensemencés parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais les inquiétudes du monde, l'attrait trompeur des richesses et l'intrusion des autres désirs étouffent la parole et elle devient stérile. D'autres ont été ensemencés dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit. L'un 30, un autre 60 et un autre 100. Voici l'explication que donne Jésus de cette parabole. Que faut-il retenir de cette parabole? Je crois que son enseignement premier, c'est que la vie chrétienne se juge sur la durée. La vie chrétienne, comme le jardinage, c'est viser la croissance. La croissance de ce qui a été semé. La croissance vers la maturité. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Je ne sais pas si vous avez été sensible à ce verbe au verset 8, avec les grains qui tombent dans la bonne terre, montant et croissant, ils finirent par donner du fruit. Ils finirent par donner du fruit. C'est quelque chose qui prend du temps. Et à la fin, il donne du fruit. Mais ce que la parabole nous dit, c'est que tous n'y parviennent pas. Tous ne parviennent pas à cette maturité parce qu'il y a trois dangers, nous dit Jésus. Le premier, ce sont les oiseaux. Les oiseaux qui viennent prendre ce qui a été semé et qui l'emmènent. C'est ceux qui ne prennent pas le temps de répondre favorablement à ce qu'ils reçoivent. Ceux qui ne passent pas par la décision, par le baptême, comme nous en avons discuté la dernière fois. Ceux-là, ils n'entrent même pas dans le processus. Les oiseaux, le Satan, l'adversaire, vient retirer dès le départ. Mais il y a deux autres dangers. Il y a l'absence de racines et la concurrence des autres désirs. Deux dangers différents, mais qui ont le même résultat, empêcher d'arriver à la maturité. Et je crois que si nous réfléchissons, nous le savons, nous le constatons, et peut-être, alors que nous parlons de cette parabole, alors que nous l'écoutons, vous pensez à des personnes que vous voyez fragiles, ou peut-être vous pensez à vous-même, que vous savez faible et en combat. Et ce n'est pas habituel, mais je vous invite à prendre un court moment de silence. Maintenant, d'incliner ensemble nos têtes et de remettre dans le silence de notre cœur, de remettre au Seigneur les noms qui nous viennent en tête par rapport à cette parabole et cette direction dans la croissance et les difficultés qu'il y a pour y arriver. Amen. J'en reviens à notre projet d'Église. Notre projet d'Église, résumé par une formule que vous connaissez et qui est des disciples qui font des disciples. Absolument. Des disciples qui font des disciples avec 5 mouvements successifs. Et nous avons déjà vu les 3 premiers mouvements. Inviter les personnes pour qu'elles viennent, qu'elles aient un contact avec la bonne nouvelle du Seigneur. Les accueillir au nom du Seigneur pour qu'elles se sentent bien, pour qu'elles sentent dans cette communauté comme avec Dieu, qui nous accueille tel que nous sommes. Et puis le troisième mouvement, baptiser, c'est-à-dire accompagner les personnes dans la décision qu'elles prennent. Quand le Seigneur touche leur cœur, les accompagner pour mettre en œuvre cette décision, se faire baptiser et intégrer l'Église. Voilà les 3 premiers mouvements. Et on pourrait être tenté de s'arrêter là. 3 mouvements qui nous amènent vers la conversion. 3 mouvements durant lesquels nous avons accompagné les personnes de l'extérieur de l'Église jusqu'à l'intérieur de l'Église, en passant par la porte qu'est Jésus-Christ. Mais on ne s'arrête pas là. Et le but, c'est d'aller jusqu'au centre, jusqu'à être soi-même un moteur de l'Église, jusqu'à ce que les personnes qui sont venues de l'extérieur aillent jusqu'à ce point. Et c'est comme si, à ce moment-là, au moment de la conversion, de la décision, ce qu'on a appelé baptisé, il y avait un deuxième parcours qui commençait. Un parcours vers la maturité et le service. Et le passage que nous avons lu se fait le témoignage de cette deuxième partie. La croissance. La croissance dans ce que Dieu a semé en nous. Ce passage en fait témoignage. Le Nouveau Testament nous y exhorte. Si vous vous souvenez du verset 4 de Matthieu 28, allez vers toutes les nations, baptisez-les, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il y a des prescriptions du Seigneur à enseigner. Et on les retrouve dans le Nouveau Testament, on les retrouve dans les épîtres des apôtres. Cette nécessité de croissance est présente. Je ne vais pas vous en faire la démonstration, juste citer un verset de l'Épître aux Hébreux, où l'auteur reprend ses interlocuteurs leur disant « Alors que vous devriez être, depuis le temps, des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments des paroles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin non pas de nourriture solide, mais de lait. » Il y a une frustration là de l'auteur. Une frustration parce que les chrétiens de cette église devraient grandir, aller vers la croissance et la maturité. Et pour être un disciple, c'est ce qu'il faut faire. Aller vers la croissance et la maturité. Et ce ne sont pas deux parcours distincts, c'est un seul parcours. Depuis l'extérieur jusqu'au centre de l'église et qui passe par la maturité. C'est donc le quatrième mouvement de notre projet d'église, enseigner les disciples en apprentissage pour qu'ils deviennent matures. Il y a une question qu'on peut se poser en lisant la parabole du semeur. C'est est-ce que on peut changer la nature du terrain dans lequel la semence arrive. Je me souviens, le film date un peu, mais il y a ce film « Qui veut la peau ?» de Roger Rabbit, où le lapin héros, qui donne son nom au titre du film, Roger donc, est marié à une créature, Jessica, splendide, aux formes affolantes et qui ne laisse aucun des hommes qui croise indifférent. Et elle a cette réplique à un moment, quand on l'accuse de faire tourner la tête à tout le monde, elle dit « Mais j'y peux rien, j'ai été dessinée comme ça. » Est-ce que c'est la même chose pour nous? Est-ce que nous n'y pouvons rien parce que nous sommes un sol tel que nous sommes? Bien, je ne crois pas. Si Jésus dit cette parabole, c'est aussi parce que la nature du terrain peut changer. Il y a deux acteurs, je crois, pour changer la nature du terrain. D'abord, c'est nous-mêmes. Et Jésus le fait remarquer lui-même dans cette parabole qui conclut par « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Nous avons beau avoir un terrain différent, nous avons tous des oreilles. Nous entendons tous cette parole de Jésus et son invitation à passer à l'action pour nettoyer le terrain. Et il y a un deuxième acteur pour nettoyer le terrain, c'est la communauté. Toujours avec la métaphore jardinière, j'ai repensé à ce verset de 1 Corinthiens où Paul dit « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. » Dieu fait croître, mais il donne à son Église des jardiniers pour les différentes tâches. Si cette parabole est là, ce n'est pas seulement pour nous expliquer pourquoi, quand on annonce le message de l'Évangile, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. C'est aussi une invitation pour celui qui écoute et pour la communauté qui écoute à travailler le terrain. Donc, dans le mouvement de notre projet d'Église, nous devons aller vers la maturité, viser la maturité, accompagner vers la maturité. Les disciples doivent aller vers la maturité. Si vous voulez être disciple, vous devez viser la maturité, avoir ce désir de progresser en maturité. Mais également, si vous faites des disciples, et donc que vous faites vous-même des disciples, que vous contribuez à l'avancée des autres, vous devez avoir le souci d'amener à la maturité. Et ce souci d'amener à la maturité, c'est ce que nous résumons par ce verbe « enseigner ». Et nous allons voir un peu plus ce sujet, la maturité. Il y a deux questions que j'aimerais traiter. La première, c'est la maturité, qu'est-ce que c'est ? Et la deuxième, comment la transmettre ? Qu'est-ce que la maturité ? J'aimerais partager avec vous quatre pistes vers la maturité. Quatre pistes que je n'ai pas sorties de mon chapeau. Je me suis inspiré du travail qu'a fait l'église de Potokombo, l'église où a œuvré Christophe, l'orateur de notre dernier week-end d'église. La maturité, c'est avoir Jésus comme Seigneur, se soumettre à lui, aller toujours plus dans ce chemin de soumission où il prend la place dans notre vie, où il nous pilote. C'est ça la maturité. Et j'aimerais vous partager quatre pistes, les partager très rapidement. Chacune pourrait faire l'objet d'une réflexion propre ou même d'une série de prédications. Donc on va juste survoler ces quatre pistes. Mais pour vous donner un peu un goût de là où nous pouvons progresser pour avancer personnellement dans la maturité. La première piste, c'est que Jésus soit le Seigneur de mon temps. Notre soumission envers Dieu doit se voir dans la façon dont nous utilisons notre temps. Et tout particulièrement, ça se voit en passant du temps avec lui. Dans les milieux chrétiens, on parle de culte personnel. Qu'est-ce qu'un culte personnel ? C'est du temps que je passe quotidiennement, seul avec Dieu. Un temps où je le rencontre seul à seul, à la différence du culte de l'Église, comme nous en avons en ce moment, qui nous permet de nous approcher ensemble, c'est un temps où je viens seul, face à lui. Et c'est dans cette solitude et cette relation un à un, ça va me permettre de m'approprier ce que dit Dieu. Ça va me permettre de m'enraciner personnellement en Dieu. C'est un temps dans lequel je vais lire la Bible et la méditer. La lire et la relire à la lumière de ce que je vis pour découvrir ce que Dieu a à dire. C'est un temps où je vais prier, me mettre devant Dieu pour exprimer ce que j'ai sur le cœur et pour m'accorder à ce qu'il désire. Jésus est le modèle absolu de maturité. Et Jésus impressionnait ses disciples par le temps qu'il passait avec Dieu. Ce temps, les disciples ont relevé plusieurs fois dans les évangiles que Jésus se levait très tôt pour prendre un temps à l'écart avec Dieu. Ça les a marqués. Ça les a marqués après coup, quand ils ont rédigé les évangiles. Ça les a aussi marqués pendant qu'ils étaient avec lui, puisqu'ils lui ont demandé « Apprends-nous à prier. Nous aussi, on veut ce que tu as, on veut vivre ce que tu vis. Nous aussi, nous sommes appelé à développer cette spiritualité. Comme Paul encourage son disciple, Timothée, entraîne-toi à rester attaché à Dieu. La piété est utile à tout, puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. La piété, passer du temps avec Dieu, est utile à tout. Deuxième piste pour progresser vers la maturité, que que Jésus soit le Seigneur de mon argent. L'argent a une place à part dans notre monde et dans nos vies. Et c'est souvent un concurrent avec Dieu dans nos priorités. Il n'y a qu'une seule chose à propos de laquelle Jésus dit « On ne peut servir deux maîtres » et c'est l'argent. Jésus nous le dit « On ne peut servir Dieu maître, on ne peut servir Dieu et l'argent. » Il nous met en garde. Et si Jésus est le Seigneur de notre vie, il est aussi Seigneur de notre argent et comme notre temps, comme avec notre temps. Il est bon de lui en consacrer une partie. C'est un signe que nous voulons nous placer sous sa seigneurie, dans ce domaine-là aussi. Peut-être vous souvenez-vous d'une prédication de l'année dernière sur le sujet qui expliquait entre autres quel intérêt il y avait à donner régulièrement. Et j'avais à l'époque souligné trois pistes que je peux rappeler. C'est un geste de don, un geste de confession. Par cet acte de donner, on prouve ce qu'on dit croire. Nous confessons que Jésus, que Dieu pourvoit nos besoins. Et en donnant, en nous séparant d'une partie de ce que nous avons, eh bien, nous le mettons en pratique. Nous le montrons, et pas seulement aux autres, nous le montrons à nous-mêmes, nous le prouvons. On donne aussi pour les autres, pour que d'autres en bénéficient, à l'Église par la solidarité de l'Église, mais aussi par le ministère de l'Église. L'Église qui veut être une bénédiction pour tous. Et en participant au financement de l'Église, on participe aussi à cette bénédiction pour les autres. Et puis, on donne aussi pour nous-mêmes. Parce que l'argent, c'est un très bon serviteur, mais un mauvais maître. Et chaque fois qu'on donne, on se défait un peu de son emprise. On se détache de ce désir d'avoir toujours plus, de posséder toujours plus. Et en même temps, en donnant, on s'enrichit. C'est la Bible qui nous le dit, qui nous invite à nous concentrer sur les vraies richesses. Jésus dit, ne vous amassez pas les richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est une deuxième piste vers la maturité. Troisième piste. Il faut que Jésus soit le Seigneur de mes relations. Souvent, pour amener les autres à Christ, à Jésus, nous comptons sur nos discours, sur la prédication, sur notre force de persuasion. On peut aussi compter sur notre programme, sur nos cultes découvertes ratés. Si on écoute ce que dit Jésus, c'est avant tout la qualité de nos relations qui prouve notre appartenance. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit-il, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Autrement dit, quand des personnes nous voient ensemble, l'amour que nous avons les uns pour les autres, la qualité de nos relations, voilà ce qui va les interpeller. Waouh ! Vous vous sentez à la hauteur ? Assurément, si ce domaine est aussi crucial, nous devons y travailler et de progresser sans cesse. Nous devons garder en tête qu'est-ce que c'est que s'aimer. S'aimer, ce n'est pas ne pas avoir de problème les uns avec les autres. Aimer, c'est quand on a des problèmes, savoir les dépasser aller de l'avant, rester dans l'amour. Et les évangiles, comme les épîtres, sont remplis de conseils sur comment vivre ensemble. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. Portez les fardeaux les uns les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Voilà des exemples qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Il y en a plein d'autres qui nous encouragent dans ce mouvement. Dans le mouvement qu'a initié Jésus lorsqu'il a donné un commandement nouveau. Il a dit « Aimez-vous les uns les autres. » Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Quatrième piste vers la maturité, il faut que Jésus soit le Seigneur de mon corps. Le chrétien appartient entièrement à Jésus-Christ. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a un baptême, qu'il y ait quelque chose de physique dans lequel le corps tout entier est impacté. C'est parce que mon corps aussi fait partie de ma relation avec Jésus. Et il faut soumettre à Dieu notre corps. Et cela concerne bien des aspects de notre vie. Mais on peut parler en particulier de la sexualité. Alors j'entends les objections. Ouh là là ! Les chrétiens stigmatisent toujours ce domaine. Mais la Bible nous enseigne que ce domaine a plus d'impact sur nous que d'autres. C'est un domaine particulier. Que dit la Bible au sujet de la sexualité ? La Bible nous dit que la sexualité est une belle chose, qui se vit dans le cadre du mariage et uniquement dans ce cadre. Qu'un mariage, c'est entre deux personnes de sexe différent et que c'est exclusif et sans divorce. On peut considérer que cette façon de voir les choses est datée, dépassée, bien loin de ce que vit notre monde actuel. Mais mes amis, à l'époque où le Nouveau Testament a été rédigé, c'était déjà en décalage. Dans le monde de l'époque, le monde gréco-romain, l'homosexualité était bien présente. Le mariage n'allait pas de soi puisqu'il y avait un débat pour savoir s'il était plus avantageux de rester célibataire pour profiter de sa sexualité sans les contraintes de la vie commune. Et où les maîtresses et les prostituées avaient une grande place à côté de l'épouse légitime. Et pourtant, dans ce contexte, finalement pas si éloigné d'une autre que ça, c'est là que le Nouveau Testament donne son enseignement, qui reste valable dans notre contexte à nous, au XXIe siècle. Parce qu'il reste valable, non pas parce que les temps n'ont pas changé, mais parce qu'il est la volonté du Créateur pour sa création. Une vie sainte sur le plan sexuel exigera une discipline et une maîtrise du corps. Et pour cette maîtrise, nous aurons besoin de maturité. Maturité pour comprendre ce que Dieu attend, et maturité pour le mettre en œuvre dans la façon de le vivre. Mais nous ne nous trompons pas, comme il dit dans Corinthiens, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix, honorez donc Dieu dans votre corps. quatre pistes vers la maturité. Et comme je vous le disais, chacun de ces sujets peut être développé pendant longtemps. Et c'est normal puisque, comme nous l'avons dit, ce chemin vers la maturité prend du temps. C'est un chemin qui s'inscrit dans la durée. Quatre sujets, donc, à peine évoqués, mais quatre directions qu'il est nécessaire de considérer si vous visez la maturité spirituelle. Comment transmettre la maturité? Parce que les mots sont importants, les formulations sont importantes. Nous ne sommes pas une église qui fait des disciples. Nous sommes une église de disciples qui font des disciples. Et ce n'est pas à l'église, ce n'est pas au prédicateur du haut de la chaire de conduire vers la maturité, mais c'est aux disciples eux-mêmes de s'accompagner les uns les autres, de s'encourager vers la maturité. Alors, comment faire? Comment nous encourager dans cette voie? Comment contribuer à ce mouvement général de faire des disciples? Nous le faisons par l'enseignement d'Église, la prédication, ce que je fais en ce moment, qui est un temps où on peut donner des directions, rappeler les principes, exposer de façon claire, en tout cas, j'essaye, ce que dit la Bible. Mais ça peut manquer un peu de pratique. Comment faire? Comment je fais, moi, sur ma situation? Comment je fais, moi, avec mes difficultés, pour progresser vers la maturité? Parce que ce chemin, il est difficile. Ce chemin, il est long. Et c'est un challenge pour chacun d'entre nous. Et pour moi, le premier. C'est un challenge que d'avancer dans cette voie. Donc en plus de la prédication, en plus de l'enseignement, en plus de la théorie, il va falloir aussi la relation. L'exemple, le partage. Et la Bible nous y invite, puisque Paul, dans ses épîtres, partage ses exhortations tout au long de ce qu'il écrit, des exhortations concrètes à ceux à qui il écrit. La Bible se fait aussi le témoignage de ce qu'il a eu une relation particulière avec Timothée. Il y a ce verset qui est formidable pour vivre notre vie d'Église, pour vivre le discipulat, et qui dit... Paul dit à Timothée, l'enseignement que tu as reçu de moi, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Et Paul met en place une chaîne de transmission. Lui, il instruit Timothée. Timothée en instruit d'autres et eux-mêmes vont en instruire d'autres. Comme ça, ainsi de suite. Des disciples qui font des disciples. Et d'une façon plus générale, le Nouveau Testament nous y invite. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Et on pourrait le traduire, instruisez-vous et exhortez-vous vous-même. Vous n'avez pas besoin d'autres dans votre communauté. Vous pouvez avoir ce mouvement. Donc, deux voies plus personnelles. Une première voie de transmission dans le 1 à 1. Une personne qui s'investit dans la vie d'une autre. J'ai parlé de Paul avec Timothée et ce verset que nous avons lu. Ce que tu as reçu, transmets-le à ton tour. Et j'avais, dans une prédication précédente, posé cette question, une question qu'on peut tous se poser. Qui est ton Paul? Qui est ton Timothée? Est-ce que dans ta vie, il y a quelqu'un qui joue le rôle de Paul, vers qui tu peux te tourner et qui te guide? Et est-ce que dans ta vie, tu as quelqu'un comme Timothée que tu conseilles et que tu accompagnes dans sa propre croissance? C'est vraiment une belle chose à vivre que de s'investir dans la vie d'un autre pour le faire progresser et de recevoir d'un autre pour progresser soi-même. Et puis il y a aussi les petits groupes que nous vivons dans les groupes de maison. Dans ces petits groupes, nous pouvons partager. Partager avec honnêteté et avec confidentialité. Ces groupes-là sont des petites unités dans lesquelles nous sommes en confiance et dans lesquelles la confiance ne doit pas être trahie. Nous pouvons y partager nos difficultés et nous serons encouragés de savoir que nous ne sommes pas les seuls à lutter. Et nous serons aussi encouragés de ce que nous pouvons nous soutenir dans ce combat. Mais nous pouvons aussi partager nos victoires et nous serons encouragés de voir de nouveaux moyens de progresser vers la maturité dans les victoires des autres. Ou nous serons aussi encouragés de nous réjouir de la progression des autres. Et là, cette transmission de la maturité, ça demande quand même beaucoup de sensibilité, de faire attention. C'est nécessaire et en même temps, il faut le faire avec soin, sans devenir juge les uns des autres. Parce que Jésus nous met en garde contre cela. Nous met en garde de penser avec l'autre qui s'ouvre devant moi, que je peux conseiller. Jésus nous met en garde de nous sentir supérieurs à lui. Si nous commençons à nous sentir supérieurs les uns aux autres, c'est là où nous risquons de tomber nous-mêmes. Cette transmission, elle se fait avec honnêteté, avec humilité et dans l'amour. C'est ainsi que nous nous enseignons les uns les autres pour chacun progresser vers la maturité. Et voici ce mouvement, ce quatrième mouvement de notre projet d'Église, qu'on résume par ce verbe, enseigner. Un mouvement auquel nous participons tous. Après le baptême où la semence tombe en terre et commence à lever, nous avons besoin de racines pour que la plante grandisse et ne se dessèche pas. Nous avons besoin de nous concentrer sur ce qui est bon, de ne pas se laisser étouffer par les soucis du monde pour que nous arrivions jusqu'à maturité et que nous puissions porter du fruit. Et ça, mes amis, ça ne nous tombe pas dessus. Ça ne s'attrape pas un beau jour par contagion parce que nous avons passé suffisamment d'heures assis sur les chaises de l'Église. La maturité, nous y arrivons parce que nous orientons résolument vers cette recherche. Et parce que nous avons autour de nous des personnes qui nous accompagnent, partageant difficultés et luttes, mais aussi les progrès. Et parce que nous recherchons la croissance de chacun, priant les uns pour les autres, nous inquiétant de la croissance de chacun, tourner vers la maturité de chacun pour être un disciple, selon ce que notre Seigneur Jésus attend. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, marcher dans tes voies, ce n'est pas rien, et après avoir vu ces pistes vers la maturité, nous nous rendons compte de ce que c'est du sérieux et de ce qu'il y a du travail. Peut-être pouvons-nous même être découragés par la tâche qui nous attend. Mais Seigneur, tu nous promets ton Saint-Esprit pour nous accompagner et tu l'envoies. Merci parce que tu es à notre côté. Tu nous donnes aussi ton Église, tu nous donnes les uns aux autres pour nous accompagner dans cette croissance. Et merci pour ça. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes toi-même dans cette croissance vers la maturité. Et je te prie que tu nous transformes, chacun d'entre nous. J'aimerais te prier que tu me transformes moi-même pour être toujours plus conforme à ce que tu attends. Pour être un chrétien mature, qui est dans ta volonté, qui vit comme tu souhaites que je vive. Aide-nous à faire ce chemin avec toi, joyeusement, pour ta gloire et l'extension de ton royaume. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.